dissonance.
Trois fois par mois, histoire de voir les choses autrement, sous un autre angle ou dans une autre perspective, nous ferons ensemble un pas de côté pour prendre le temps d'écouter des parcours de vie. Des parcours vécus par des gens comme vous et nous, des voix dissonantes, des voix d'hommes et de femmes qui portent un éclairage différent sur nos rêves et nos folies.
Dissonance,
Joseph Hula
et Dany Joulier. Les micros de Dissonance sont aujourd'hui dans le Morbihan, en Bretagne, à Questembert plus exactement. À l'ombre du marronnier géant de la cour de récréation de l'école aux graines, les deux enseignantes éducatrices, Céline Delot et Cécile Évrard, évoquent pour nous les cheminements qui les ont conduits à se battre pour créer leur école.
Une école hors les murs, une école où les enfants revivent, apprennent avec plaisir, à leur rythme, vont de découverte en découverte et se forgent une éthique de vie au contact des réalités d'aujourd'hui.
Dans Dissonance, d'autres voix s'ajoutent aux voix de Céline et Cécile. On y entend les enfants, les parents aussi, et même un enseignant poète, Jean Poli.
Durant près d'une heure, il sera question de pédagogie freinée, de Maria Montessori, d'urgence écologique, de l'école d'État, aussi appelée éducation nationale, de constats d'échec des grosses structures pédagogiques aux aires d'élevage en batterie, et même d'œufs qui naissent dans les frigos.
Dissonance vous invite, l'espace d'une heure, à vous laisser porter par l'énergie de Céline Delot et Cécile Évrard, et vérifier ainsi que le rêve peut devenir réalité.
C'est la table de grammaire. Et ben, ça fait pour plusieurs choses. On peut, par exemple, on peut faire des maths ici.
D'accord.
Ça c'est pour utiliser la plume. Ça c'est l'exercice de l'horloge. Par exemple, si tu mets 7 heures là, mais la grosse ici et la petite là.
D'accord.
Ça fait 10 heures et quart.
Alors ce projet avec qui m'est venu au fil des années, avec mes lectures en sciences de l'éducation pour la recherche, mais aussi avec le vécu du terrain. De là, je me suis dit que l'enfant, qu'il soit en très bas âge ou au niveau de la préadolescence, a besoin tout d'abord d'une écoute et d'un cadre bienveillant avec le nombre d'éducateurs nécessaires. L'enfant a aussi besoin d'être mis dans une perspective de travail ou de projet ou d'activité où ses talents vont être mis en valeur tout en développant bien sûr de nouvelles connaissances, puisque c'est quand même l'objectif de l'école. Et enfin, je pense que l'enfant a grandement besoin de s'épanouir dans un environnement naturel, voire donc rural, voire même fermier, ce qui est le cas de l'école aux graines, car l'éducation se retrouve face à une urgence écologique. C'est aujourd'hui un enjeu essentiel.
Et donc j'ajouterais à cela tout l'aspect relationnel aussi, comme Céline a parlé, vis-à-vis de l'enfant, mais aussi par rapport à l'équipe éducative et l'équipe parentale, puisque c'est aussi important de savoir s'écouter et écouter les besoins de chacun. Et puis aussi que l'école, ça se fait pas que dans la classe, mais ça se fait en dehors des murs aussi.
L'école aux graines
avec Céline Delot
et Cécile Évrard
sur Dissonance.
Vous vous avez créé en février 2020 en Bretagne, dans le Morbihan, une école laïque, l'école aux graines, indépendante, une école qui ne bénéficie pas de subventions de l'État, une école qui fonctionne pourtant avec son autorisation et sous son contrôle. Vous y pratiquez, Céline et Cécile, et c'est là une de vos originalités, une pédagogie qui vous est propre et qui est une combinaison de deux pédagogies dites alternatives, la pédagogie de l'Institut coopératif de l'école moderne, pédagogie appelée Freinet, et la pédagogie en vogue aujourd'hui, la pédagogie Montessori. Quels sont les constats dans votre parcours, dans vos parcours respectifs, qui vous ont conduit à créer cette structure et à vous investir dans ces deux pédagogies?
Moi, je me souviens avoir un peu subi mon CP, l'école où il fallait rester assis bien sagement, une méthode de lecture pas toujours passionnante. Enfin voilà, j'étais pas une enfant faite pour ça. Moi, j'avais besoin d'aller dehors, de regarder les oiseaux, d'être dans le concret, et je pense que inconsciemment ça a dû me conduire à monter cette école avec Cécile.
Et puis pour moi, j'ai changé 4 fois d'école parce que j'étais dyslexique et du coup j'allais chez la logopède. Donc c'est la logopède en Belgique, ça équivaut à l'orthophoniste en France. Et du coup, à chaque fois que j'allais chez la logopède, du coup je perdais des heures avec la classe. Et du coup, ça m'aidait pas à rattraper le contenu qui avait été vu. Et du coup, voilà, j'ai été en difficulté pendant tout mon parcours scolaire, primaire, secondaire. Et après, à la haute école où j'ai fait mes études d'incite, comme j'aimais faire ce que je faisais, tout a été comme sur des roulettes. Donc voilà, le constat, c'est que moi, j'aimais pas l'école, j'avais des phobies scolaires, j'avais mal au ventre et... Et voilà, donc j'avais envie d'être une incite chouette pour accompagner au mieux les enfants qui sont en difficulté ou non à l'école.
Toi, tu as plus une formation Montessori, c'est ça?
Oui.
Quelle a été ta première approche avec la pédagogie Montessori?
Alors, ce sont d'abord des livres, et puis après, j'ai eu la chance de pouvoir observer plusieurs écoles Montessori. Et du coup, j'ai été bluffée par la capacité aux enfants qui ont été nourris, qui ont eu la possibilité d'aller jusqu'où ils voulaient. Et donc, de voir un enfant de 4 ans compter jusqu'à 488. Et du coup, j'étais bluffée et ça m'a... Enfin, je voyais que les enfants, ça les alimentait de savoir faire toutes ces choses-là qu'ils n'auraient pas pu faire ailleurs, parce que le professeur leur laissait la possibilité de le faire. Voilà.
Et toi, Céline, ton premier contact avec ces pédagogies qui redonnaient toute leur place aux enfants, c'était quoi ?
Moi, je pense que ça vient de l'Aveyron, où à l'époque, j'étais en licence sciences de l'éducation par correspondance, et ça me permettait du coup de travailler dans les écoles. À l'époque, nous étions recrutés par les inspecteurs de l'éducation nationale. Et en tant qu'assistante d'éducation, j'ai eu la chance de rencontrer une institut exceptionnelle. J'en profite pour lui dire bonjour. Donc, il s'agit de Marie-Hélène Robert. Nous étions à Vezin. Et c'est de cette façon que j'ai découvert la pédagogie Freinet, où j'entends parler de chasse aux mots, de cahiers d'écrivains, de conseils de coopération. Je fais « Waouh, mais c'est quoi cette façon de travailler ? Mais j'ai jamais vu ça. C'est extraordinaire. » Et puis, Marie-Hélène me propose de participer aux réunions du groupement départemental de l'Aveyron, et là c'est d'autres rencontres avec d'autres instits qui voient l'orthographe pas que pour faire de l'orthographe, aussi un moyen d'expression pour les enfants, la question des droits de l'enfant, du sens des apprentissages. Je crois que c'est les promenades mathématiques qui m'a le plus fascinée, avec aussi les sorties dans le village, et du coup oui, mon premier amour, c'est Célestin. Et puis Élise aussi. Faut pas oublier Élise.
C'est quoi la musique ?
C'est du son qui se parfume.
C'est quoi l'émotion ?
C'est l'âme qui s'allume.
C'est quoi un compliment ?
Un baiser invisible.
Et la nostalgie ?
Du passé comestible.
C'est quoi l'insouciance ?
C'est du temps que l'on sème.
C'est quoi le bon temps ?
C'est ta main dans la mienne.
C'est quoi l'entreprise? l'enthousiasme.
C'est des rêves qui militent.
Et la bienveillance.
Les anges qui s'invitent.
Et c'est quoi l'espoir?
Du bonheur qui attend.
Et un arc-en-ciel.
Un monument au vivant.
C'est quoi grandir?
C'est fabriquer des premières fois.
Et c'est quoi l'enfance?
De la tendresse en pyjama. La vie, c'est un peu de tout ça, mais surtout c'est toi, c'est toi.
C'est quoi le remords?
C'est un fantôme qui flâne.
Et la routine?
Les envies qui se fanent.
C'est quoi l'essentiel?
C'est de toujours y croire.
Et un souvenir?
Un dessin sur la mémoire.
C'est quoi un sourire?
C'est du vent dans les voiles.
Et la poésie?
Une épuisette à étoiles.
C'est quoi l'indifférence?
C'est la vie sans les couleurs.
Et c'est quoi le racisme?
Une infirmité du cœur.
C'est quoi l'amitié?
C'est une île au trésor.
Et l'école buissonnière?
N'accroche pas ta Pythagore.
C'est quoi la sagesse?
C'est Tintin au Tibet.
Et c'est quoi le bonheur?
C'est maintenant ou jamais. Ça, mais surtout, c'est toi. C'est toi. Dans tes histoires, dans tes délires, dans la fanfare de tes fous rires, la vie est là. La vie est là. Dans notre armoire à souvenirs, dans l'espoir de te voir vieillir, la vie est là. La vie est là.
Oui, c'est nous.
Oui, c'est nous.
Les matelots.
Les matelots.
De l'école.
De l'école.
Les colorés.
Les colorés.
Sur ce bateau.
Sur ce bateau.
Pour capitaine.
Pour capitaine.
On a Cécile.
On a Cécile.
Et puis Céline.
L'école aux graines.
Avec Céline Dolo.
Et Cécile Évrard
sur Dissonance.
Et votre rencontre à vous deux?
En fait, depuis que j'ai commencé mes études d'incite, j'avais toujours été attirée par les différentes pédagogies. Donc, je suis arrivée en Bretagne. Et d'abord, j'ai revu une amie d'enfance avec qui je voulais monter un jardin d'enfants. Et puis finalement, elle se sentait plus trop d'être dans ce projet-là. Donc voilà, ça s'est tombé à l'eau. Mais en parlant de bouche à oreille avec les gens du coin, on m'a dit « Ah, mais il y a une nana, Mola, qui voudrait montrer une école ». Du coup, j'ai continué d'en parler à droite à gauche. Et pour finir, il y a Nadia qui m'a fait rencontrer Céline. Et donc, ça a commencé par là.
Et ça a de suite accroché, Céline?
Ah oui, oui, totalement. Moi, j'étais enchantée de rencontrer quelqu'un qui était sensible par la question de l'enfant à l'école. En plus, je me souviens que lors de notre première rencontre, j'étais un peu brute de décoffrage. C'est mon côté dragon. C'était très chouette, mais j'ai fait comprendre à Cécile que c'était une aventure. Où il fallait avoir des épaules solides, il fallait beaucoup travailler. Je voulais pas que la personne puisse se faire des illusions. Enfin, c'est vraiment une expérience incroyable, mais qui peut être très très lourde. Faut pas avoir peur d'en faire trop. Et Cécile est exceptionnelle pour ça. C'est une collègue, qui est géniale.
Et en quoi cette aventure est aussi difficile et demande autant d'investissement? Parce qu'au départ, on va en parler maintenant, vous aviez un projet qui se retrouve dans ce que vous faites actuellement aussi, mais c'était un truc génial, c'était une petite structure au milieu de la nature, avec des animaux.
D'abord, il faut trouver le lieu. Donc là, on avait un superbe lieu à Molac, et puis finalement, ça n'a pas pu fonctionner parce que voilà. Et puis après, on a vu une autre super maison qui était de plein pied parce que en fait, pour être un établissement recevant du public type 5, parce que nous, on est type 5 parce qu'on veut être moins de 100 élèves, donc voilà.
C'est donc un choix, le nombre d'élèves, c'est ça, c'est, oui. Vous voulez rester une petite structure.
Oui, on veut rester une petite structure à taille humaine pour éviter d'avoir des trop grosses classes, pour veiller à la qualité pédagogique.
Pourquoi les animaux ?
Ça, c'est Céline. Moi, je suis plus plante.
Oui. Bah, pour répondre à ta question sur la difficulté de monter un tel projet, c'est déjà, je pense que c'est aussi une histoire de territoire. Si nous étions dans une ville comme Rennes ou Nantes, peut-être que les choses seraient moins compliqué en campagne. On a pu travailler dessus. Bon, initialement, l'Écolo Graine, ça fait plus de 10 ans quand même, avec de nombreuses embûches, mais aussi un parcours. Enfin, ces 10 années, c'était aussi important parce qu'il fallait se former. C'est quoi une école indépendante? Comment ça peut fonctionner? Il y a différents statuts juridiques qui peuvent exister, mais je me souviens quand je pouvais en parler. Enfin, c'est pas que les gens nous prenaient pour des fous ou pour des folles, mais il y avait des exclamations du genre « Ah bon, on peut faire ça, mais vous avez le droit, mais vous êtes professeur, mais vous êtes sûr que vous aurez les autorisations ?» Et « Mais oui, tout à fait. » Enfin, et je pense que, enfin voilà, il y a une question sociale, l'ordre des choses. Et puis on est en Bretagne, mine de rien. Moi, j'ai vécu pas mal d'années en Midi-Pyrénées, et je trouve que en Bretagne, il y a l'école. À entendre certains maires, avant toute chose, c'est l'école publique, c'est très bien, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi un autre édifice, pour le coup, c'est l'école privée catholique. Et nous, quand on essaye de sillonner, de trouver sa place entre ces deux monuments, ça peut être un peu complexe. Et puis, en rencontrant des élus peut-être qui sont jeunes parents, qui ont été sollicités par la question éducative pour leurs propres enfants. Enfin voilà, on arrive à des choses un peu plus faciles et du coup, heureusement, on a eu Questembert et c'est superbe. Et pourquoi la place des animaux et le végétal comme tu disais tout à l'heure, Joseph, initialement, ça devait être au cœur d'une ferme, en agriculture biologique. L'essence même de l'écolo-graine, il y a certes la pédagogie Freinet, il y a la pédagogie Montessori, mais c'est aussi l'urgence écologique dans l'enseignement. Ça fait pas mal d'années que je travaille avec des enfants, et que ce soit en zone urbaine ou en zone rurale, parfois je suis un peu catastrophée de voir des enfants que je pourrais appeler hors sol, où les vers de terre, ça peut faire peur. Ah là là, le compost, mais c'est dégueulasse. Pardon, j'emploie un gros mot, mais c'est ce que j'ai pu entendre lors de différents chantiers avec des gamins. Et j'ai dit, mais non, pas du tout, mais c'est la vie.
Et puis même en Belgique, ça me fait penser, je sais plus ce qu'on faisait comme projet, mais on parlait des animaux et on demandait d'où viennent les œufs. Et du coup, du frigo.
En fait, en forêt, on va souvent le jeudi pour regarder un peu la nature, faire des activités. On peut jouer un peu, après on travaille un peu, après on rentre à l'école. Et le vendredi, normalement, on pique-nique en forêt. Mais maintenant, c'est annulé parce qu'en fait, les petits savent pas... faire pipi nature quand ils ont envie de faire pipi, et en plus c'est dur aussi parce qu'elle tombe et tout, et du coup c'est un plat galère. Du coup on préfère y aller le matin et comme ça on revient pour manger quoi.
Et donc depuis février 2021, l'école fonctionne. Elle a ouvert ses portes. dans une petite commune bretonne, à Questembert. Premier constat, puisque nous sommes à la fin de ces 5-6 mois d'existence.
Un constat qui est assez agréable. Je trouve que les parents, comme les élèves, nous le rendent bien, ce travail, cette proposition éducative. Et ce que j'apprécie aussi, pour rebondir sur l'école chère, mais l'école pas subventionnée, c'est que mine de rien, on a un public chez nous qui n'est pas forcément plein aux as, qui fait vraiment des choix dans leur budget. Et c'est très agréable. On a des gens du cru, on a des gens d'ici, et ça c'est une force, je pense.
Ce sont des gens qui ont fait le choix, même sans moyens ou très peu de moyens, de privilégier l'avenir de leur enfant.
Oui, c'est ça. Donc on a vraiment des mamans monoparentales, on a parents qui sont dans le milieu de l'agriculture, d'autres qui sont dans l'immobilier. On a vraiment tout public, et c'est agréable de pouvoir faire une école qui soit accessible, et que chaque parent et enfant qui ne sont pas forcément du même milieu puissent se rencontrer et travailler ensemble. Donc c'est une belle équipe.
Tout à fait, parce qu'il faut, spécifier que votre volonté, c'est que ça soit, en plus que ça soit une école donc proche de la nature, avec des pédagogies intéressantes. Vous voulez aussi que ça soit une école accessible à tous.
Oui, c'est ça. Voilà. Même si 265 euros par mois, ça peut être lourd à porter. Mais là, comme le disait Céline, c'est les parents qui n'ont pas forcément les moyens, qui s'en donnent les moyens pour proposer ça à leurs enfants.
Anou, qu'est-ce que tu es en train de faire?
Je suis en train de, avec de la boue, en train de boucher des trous qu'il y a dans le barrage, vu que l'eau a descendu de 2 mètres de chaque côté. Et enfin, elle faisait 5 mètres de large, et là, elle fait plus que 1 mètre.
Donc c'est Marilyn, la maman d'Anouk.
Oui, c'est ça. Bonjour.
Donc Anouk vient d'une autre structure, ou alors elle était scolarisée à la maison?
Elle a fait une première expérience en école classique éducation nationale. Et suite à une phobie scolaire, elle a fait 4 ans d'instruction en famille.
Et phobie scolaire, elle était en quelle classe? En petite classe?
En grande section. D'accord. En grande section, ouais. Enfin, ça a commencé après autour des vacances de Noël. Et on l'a sortie en mai de l'année suivante. Il y avait, je pense, plusieurs centaines d'élèves. Mais bon, c'était des classes, oui, à 28-30, quoi.
Donc après, c'était les années, oui, les années école à la maison. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de l'inscrire dans une autre, de nouveau une autre école? C'était sa demande ou c'était votre demande?
Alors, le poids de l'instruction en famille pour un enfant est très lourd, parce que on n'est pas comme tout le monde, on est tout le temps à la maison, même si on a beaucoup d'activités par ailleurs. Et l'envie de se retrouver davantage avec les copains. Il y avait beaucoup de copains d'instruction en famille qui s'étaient rescolarisés. Elles se retrouvaient avec moins de connaissances autour d'elles. Et puis l'émulation, je pense, vraiment du groupe qui lui manquait. Et puis elle avait retrouvé des apprentissages et une assurance au quotidien sur des apprentissages qui faisait qu'elle se sentait prête et qu'elle avait moins peur vu que c'était l'école de Cécile.
C'est quoi qui vous attire ici? C'est le côté petite structure? C'est plutôt l'école hors les murs? C'est le type de pédagogie pratiquée? C'est les maîtresses que vous connaissiez?
Alors oui, Cécile, on savait qu'elle était sur ce projet depuis longtemps. Hein. Mon ami, mon compagnon, a été en sciences de l'éducation longtemps, donc il connaissait ses pédagogies. Mais c'était surtout le côté petite structure, mélange des âges, où là, on se dit pas, tiens, t'es en CM1, du coup, tu dois savoir faire ça, et si tu sais pas le faire, c'est pas bien. Donc là, vraiment, montrer que, des fois, à 4 ans, on peut savoir plus les mathématiques que quelqu'un de 8 ans, et du coup, on se stigmatise moins, et voilà, c'est plus souple, la souplesse, surtout dans l'apprentissage.
Et le fait de payer chaque mois, ça n'a pas été un frein pour vous ?
Si, c'était un gros frein, mais on s'est dit, bon, bah voilà, c'est le prix à payer pour le bien-être de notre enfant. Soit on paye ça en ostéopathie, en soins chez le médecin, en dentiste, parce qu'on voit bien que sa bouche, elle se rouvre naturellement. Donc voilà, c'est soit on payait ça en soins et puis en tristesse à la maison, parce que c'était très très lourd à porter, les crises, les décharges chaque soir. Voilà, on s'est dit, bon, bah voilà, c'est pas grave, on aura un peu plus de temps aussi pour travailler plus et on s'accompensera la charge financière. Ouais.
Moi, je voudrais rajouter que vous êtes maîtresse, mais vous êtes aussi cuisinière, femme de ménage, bricoleuse, et que vous gérez tout dans cette école, et que en plus d'y faire pratiquement 10 heures par jour, vous n'êtes pas rémunérée. Vous ne vous rémunérez pas encore.
Oui, c'est ça. C'est une richesse spirituelle de travailler à l'école pour l'instant. Et on espère qu'un jour, on pourra quand même se payer.
Alors, j'aime pas trop le mot, mais c'est vraiment un acte militant.
Bah, c'est un acte militant, non. C'est, je pense que, enfin, moi j'aime bien cette phrase, tu crées ta propre réalité, où à un moment donné, tu pouvais être dans l'institution, avoir entre guillemets une place sécure, un certain salaire, mais avoir une équipe pédagogique où on va tous dans le même sens, enfin toutes les deux, enfin on n'est que deux pour le moment, mais voilà, choisir telle marque de cahier, les produits d'entretien, enfin c'est tout quoi, quelle jus vont boire les enfants, il y a vraiment... C'est un bonheur et comme disait Cécile, c'est une richesse spirituelle, intellectuelle.
C'est aussi une richesse éthique.
C'est autre chose, parce une richesse éthique.
Voilà,
c'est pas mal,
vous ne faites pas le grand écart, il y a tellement d'instits, et moi je sais pour l'avoir vécu, qui dans la structure éducation nationale sont obligés de faire le grand écart entre la pratique quotidienne et leur éthique de vie et leur éthique de pensée. Quoi. Donc vous êtes en adéquation.
Sébastien, tu seras marin. Les bateaux poussent, graines sous la mousse. Leurs voiles sont grandes comme un liseron. C'est les rêves qui font grandir les enfants. Nicolas sera pas soldat. Les
graines douces, graines sous la mousse. Leurs cœurs ne sont pas plus grands qu'une chanson.
L'école aux graines
avec Céline Dolo
et Cécile Évrard
sur Dissonance.
Alors justement, Freinet, Célestin et Élise, mais pas que, on les ramène toujours à un individu. C'était une équipe de gens qui cherchaient ensemble, hein, donc tous ces gens qui étaient pour l'école moderne, disait-on à l'époque, et qu'on appelle aujourd'hui école Freinet, préconisait la coopération, l'autonomie de l'enfant et le travail de groupe. Et Maria Montessori, dans son quartier ouvrier de Rome, quand elle travaillait avec des enfants handicapés, œuvrait à chercher une pédagogie qui prenne en compte les particularités de chacun. Pourquoi avoir choisi de combiner ces deux pédagogies ?
Je dirais qu'elles sont complémentaires. Après, pour moi, Maria Montessori, en tout cas pour l'ambiance des 3-6 ans, bah, elle va partir du constat que chaque enfant est différent. Enfin, ça, on le sait, même en tant que parent, on voit bien que notre premier enfant est différent du deuxième. Mais que Maria Montessori, elle parlait des périodes sensibles. Donc, c'est des périodes particulières par lesquelles l'enfant passe. Et elles peuvent se juxtaposer et tout ça. Et donc, c'est à nous, en tant qu'éducatrices ou éducateurs, en fonction de notre observation, de voir par quoi est-ce qu'il est attiré et l'alimenter dans ce domaine-là, sans pour autant négliger les autres domaines. Et Célestin Freinet, pour moi, c'est complémentaire, mais c'est plus pour le 6-12 ans, parce que l'enfant est différent du 3-6, ou en 3-6, il est plus dans son individu, tandis qu'en 6-12, c'est plutôt la place dans le groupe. L'enfant, il aime appartenir à son groupe, avoir sa place. Enfin, je dis pas qu'en 3-6, il ne l'a pas besoin, mais c'est pas ça qu'il va construire de premier abord. Et donc, Célestin Freinet, donc, il va souligner les centres d'intérêt des enfants pour pouvoir déployer tous les apprentissages. Ben là, par exemple, un enfant qui adore l'Égypte, on va parler de la civilisation égyptienne, parler de plein de choses, la géographie, les mathématiques, on peut voir plein de choses. Donc, pour moi, c'est complémentaire. Et puis, tous les deux, comme Maria Montessori et Célestin Freinet, ils sont là pour l'enfant, et on est tous là pour les enfants.
Voilà, les deux avec leurs spécificités, parce qu'il y en a, il me semble qu'il y en avait un qui était beaucoup plus politique que l'autre, mais les deux avaient quand même une volonté commune, c'était rendre les élèves acteurs de leur apprentissage.
Moi, je pense, en ce qui me concerne, si ces deux pédagogies ressortent au niveau de notre école, je pense que on veut le meilleur pour nos élèves. Après, il y a d'autres courants éducatifs passionnants, très très intéressants. Je pense notamment à Fernand Houry, à De Croly. Mais néanmoins, Célestin Freinet, c'est le sens et c'est en effet l'enfant acteur. Et Maria Montessori, très franchement, je le dis et je pense que je le dirai tout le long de ma carrière, si j'avais pu bénéficier de mathématiques avec les outils montessoriens, après c'est vrai qu'elle n'était pas toute seule, il y a aussi Seguin, il y a aussi Itard, il y a tout plein d'autres scientifiques, mais néanmoins, si j'avais eu des mathématiques montessoriennes, j'aurais pu devenir présidente de la République ou vétérinaire. J'aurais eu peut-être une meilleure quatrième, une meilleure troisième. Et du coup, avec Cécile, je pense qu'on veut permettre à nos élèves de bénéficier de ces différents outils et pour répondre au mieux à leurs besoins. On est vraiment sur des apprentissages, un accueil scolaire personnalisé, mais pour autant ça n'empêche pas les travaux en groupe, les projets avec ses pairs, ça ne change rien. Et aussi, il est vrai qu'il y a des enfants qui vont pas forcément s'y retrouver avec des outils montessoriens et qui vont être plus à l'aise avec un plan de travail individualisé, avec d'autres outils qu'on pourrait appeler Freinet. Mais néanmoins, comme Cécile l'a pointé tout à l'heure, nous, on y voit des ressemblances, des corrélations.
Alors là, on va commencer le quoi de neuf.
Alors, en fait, c'est une boîte où il y a plein d'histoires dedans. Il y a des sauts là, des quittures. Et du coup, eh bien, ça, c'est le bouton pour allumer, ça c'est le OK, ça c'est la pause, et ça c'est pour commencer tout au début, et ça c'est pour
faire passer des choses.
Non, pour changer les choses. Par exemple, si on veut que ce soit une fille. Si on veut que ce soit un garçon, voilà.
Bravo.
On est vraiment sur l'enfant acteur, permettre un monde plus harmonieux, parce qu'ils ont quand même connu les guerres mondiales qui ont frappé notre siècle. Et puis voilà... être respectueux de la nature. Moi, j'aime bien cette phrase de Maria, c'est « noble est le pied, noble est la promenade, il faut semer des graines ». Et Célestin et Élise étaient très, très sensibles. On voit des photos où voilà, les enfants sont au potager. Il y a vraiment ce respect. Et aussi les droits de l'enfant.
Et puis après aussi, par exemple, si les enfants ne s'en sortent pas en lecture... Selon la pédagogie de Maria Montessori, rien ne nous empêche de proposer d'autres outils. Par exemple, la méthode de lecture par rapport aux albums. Il y a plein d'outils possibles. Enfin, on n'est pas du tout fermé qu'à Maria Montessori et Célestin Freinet. Il existe plein d'autres choses et il y a plein de choses merveilleuses.
C'est bien de ne pas se faire coller une étiquette parce qu'après, on te dit oui, mais t'es pas normalement dans l'étiquette parce que tu fais pas tout à fait comme le côté gauche de l'étiquette. En fait, c'est une pédagogie Dolo-Evrard que vous pratiquez et il faut la mettre en avant. Cécile, comment on devient enseignante spécialisée Montessori pour les 3-6 ans ?
Alors moi, ce que j'ai fait, donc d'abord, j'ai fait mes études d'instit en Belgique. Donc c'est 3 ans d'études où pendant mes 3 ans d'études, en fait, j'ai toujours été animée par les différentes pédagogies. Et puis à la suite de mes lectures, comme je le disais tout à l'heure, j'ai pu faire une formation Montessori en Belgique à Lannes. Où ça se dit l'asne en français de France. Et du coup, j'ai fait sur 2 ans, pendant les vacances scolaires, plusieurs modules en fonction des différentes aires qu'il y a dans la classe selon la pédagogie de Maria Montessori. Et donc, j'ai fait ça sur 2 ans en Belgique. Voilà. Et puis après aussi, je suis maître de psychomotricité, donc j'ai un double diplôme. Où, en fait, en Belgique, on ne conçoit plus la motricité comme des cours de galipette où on va courir et grimper. On perçoit l'enfant dans sa globalité, donc moteur, affectif, psychologique, social. Et ce que j'ai pu faire dans mes études, y a plusieurs façons de faire la psychomotricité. Donc, il y a la psychomotricité basique ou la psychomotricité relationnelle, où là, on va être encore une fois dans l'observation. On va mettre à disposition plusieurs matériaux, donc par exemple des boîtes. Et donc, enfin, des grandes boîtes. Et donc, on va voir, par exemple, certains enfants qui aiment se sentir dans des cabanes. Et donc, en fait, peut-être qu'ils ont un manque de sécurité affective. Donc, du coup, on va travailler dans ce sens-là. Et voilà, c'est super intéressant de pouvoir proposer ça. Et en Belgique, ce que j'ai pu faire après mes études, j'ai été donc institutrice, on ne dit pas professeur. Et d'ailleurs, en Belgique, on ne m'a jamais appelée Madame Cécile. C'était toujours Cécile tout court. Du coup, j'ai été titulaire d'une classe maternelle ou en zone prioritaire. Donc, zone prioritaire. C'est pas comme ça qu'on appelle en Belgique, mais bon, voilà, c'était ça l'idée. Donc, c'était un milieu, je dirais, défavorisé, où il n'y avait pas forcément les enfants qui parlaient français. Donc, ça pouvait être difficile, d'autant plus que j'étais en petite section. Donc, le premier jour à l'école, c'était très dur et très intense. Et il faut savoir aussi qu'en Belgique, on n'a pas la possibilité d'avoir une ATSEM. Donc, on se retrouve tout seul dans la classe avec... Là, dans les zones populaires, on peut se retrouver avec 30 enfants. Donc, ça, c'est quelque chose qui est vraiment pas sain, parce que ici, en France, vous avez la chance de tous avoir une ATSEM, et c'est une aide à ne pas négliger. Et pour moi, l'ATSEM, elle fait tout aussi le travail de l'Institut. Il n'y a pas de frontières, c'est le même métier, et puis c'est une équipe. Donc voilà, c'est comme ça que je vois les choses, en tout cas. Et donc j'ai travaillé là dans cette école pendant un petit temps, et puis après j'ai fait le cycle 5-8, donc parce que en Belgique, dans pas mal d'écoles, on part du constat que en fait les enfants de CP à CE2, ils peuvent travailler ensemble et que ça les porte vers le haut. Donc j'ai pu travailler en cycle 5-8, donc 5-8 ans. Et voilà, c'était très intéressant, et c'était aussi en zone prioritaire. Et puis après, quand je suis arrivée ici en Bretagne, j'ai fait le remplacement de Céline à l'Armor Baden dans la classe des 6-12 ans. Et voilà, c'était très intéressant. Et puis après, comme j'étais là aussi avant le congé maternité de Céline dans la classe pour des enfants qui avaient des profils atypiques, donc pour les accompagner, eh ben, j'ai pu observer l'ambiance des 3-6, l'ambiance des 2-3 ans, et c'était superbe. Je conseille à tous les enseignants de pouvoir observer dans les classes comme ça. Ça apporte plein de choses et c'est chouette.
Donc vous êtes un papa de l'école.
Tout à fait, je suis le papa de Jim. Il était dans une école publique à Vannes et on a fait le choix de l'emmener ici au mois de mars de cette année. Ça a été un choix fait parce que Jim, il allait à l'école à reculons. Il s'ennuyait. À chaque fois qu'il rentrait de l'école, il n'était pas de bonne humeur. À chaque fois qu'il fallait l'emmener le matin, il y allait à reculons. Donc on s'est renseigné sur l'école ici. Et l'approche qui nous a plu, c'est l'école proche de la nature. Le fait qu'il y ait l'école hors des murs le jeudi et le vendredi. Le fait d'apprendre de manière concrète. Et de ne pas être assis sur une chaise et puis ne pas bouger. Donc il avait besoin de mouvement, besoin de liberté, si je puis dire. Et c'est ce que lui apporte cette école.
Et quand il était dans la grosse structure, vous avez pas essayé de discuter avec les instituts? Ils prennent conscience de son mal-être?
Plusieurs fois. Mais on va dire qu'on est retombé sur un discours à aller voir des... l'orthophoniste, voilà. Il a peut-être de la dyslexie, donc on a le discours habituel, on a fait le nécessaire, non, il n'y a rien de tout ça, c'est juste que le système ne lui convenait pas, et que tout ne convient pas, tout n'est pas fait pour les enfants dans ce système-là, et lui, en l'occurrence, il avait besoin d'autre chose, ça ne lui convenait pas.
Et le fait que ce soit payant, ça n'a pas été un frein pour vous?
Alors non, ça n'avait pas été un frein parce que pour le bien-être de nos enfants, on est prêt à faire des efforts. Donc voilà, en plus, on fait les efforts. On a la chance aussi d'avoir la famille qui est proche. Et en fait, toute notre famille est dans le secteur de Questembert. Donc en termes d'organisation, ça a été possible parce qu'on a papy et mamie, pépé et mémé proches.
Et vous avez donc noté un changement dans le comportement de Jim, qui est là et qui nous écoute et qui nous regarde. Tu veux dire un mot, Jim?
Bonjour.
Et donc, depuis qu'il est ici, il va moins à reculons à l'école?
Depuis qu'il est ici, il va à l'école avec plaisir, avec joie. C'est un changement total. En fait, il est même en dehors de l'école, il est plus ouvert, il est plus communicant. Même avec nous, il a retrouvé une envie d'apprendre, je dirais, et une curiosité qu'il n'avait pas précédemment. Le fait d'aller dans la nature, le jeudi, le vendredi, il veut maintenant passer son temps dehors, en fait, être un peu plus dans la nature.
Ce qui vous a donc attiré, c'est plutôt le côté l'école hors les murs. C'est pas l'étiquette qui attire beaucoup de monde de nos jours, l'étiquette Montessori?
Non. Alors c'est quelque chose qu'on entend quand on est jeune parent. On a deux enfants, donc quand on est jeune parent, c'est vrai que Montessori, Freinet, on l'entend, on voit des livres, on voit des émissions de télé, mais c'est pas la première chose qui nous a attirés. C'est vraiment ce contact proche de la nature. Et d'ailleurs, quand on s'est décidé, on a regardé la vidéo qui est sur le site internet avec Céline et Cécile. Et c'est cette approche, déjà, de vidéo qui est faite dans la nature. On voit les chèvres, on voit tout cet espace. Et c'est avant tout ça, même avant le fait que ce soit de la pédagogie Montessori-Freinet, c'est le fait d'être dans la nature qui nous a séduits.
Et alors Céline, donc toi tu as commencé ton premier contact, c'était le stage à l'école de Vezin, dans les Vézoux en Aveyron, c'est ça?
C'était un poste d'assistant d'éducation où on est vraiment là pour seconder les maîtres ou les maîtresses. Donc c'est souvent dans des petites écoles rurales, chose que j'adore, enfin, des écoles très très familiales. Et ensuite, après cette année de licence, j'ai été admise à l'IUFM Toulouse Midi-Pyrénées. Donc moi, j'étais au niveau de l'antenne de Cahors. Et c'était l'année de la réforme où là, on passait à la masterisation. Donc il y avait le master et le concours. Et après cette étape, bon déjà là, l'écolograine existait déjà d'une certaine façon. Moi, mon rêve, c'était de faire l'école en roulotte. Puis je me suis rendu compte aussi que le matériel de la pédagogie Montessori pouvait peser très lourd dans la roulotte. Et du coup, il fallait penser au bien-être de son cheval. Et il y avait cette idée de ferme et d'école ensemble. Et en fait, après une année d'enseignement dans le Lot, je suis remontée en Bretagne. Là, j'ai fait mon BPREA, c'est-à-dire c'est un brevet de responsable d'exploitant agricole. J'étais dans l'élevage et parce que l'idée c'était d'associer les deux. Mais bon, je me suis rendu compte que c'était pas possible d'avoir l'élevage avant et après la classe, que c'était beaucoup, qu'il fallait avoir deux vies. Et du coup, j'ai réintégré l'institution, puis je suis partie en 2017, parce que j'en avais un peu à la casquette, si je puis dire. Il y avait des questions éthiques qui me posaient problème. Après, voilà, il y a des collègues du classique qui font un travail merveilleux. Et chez Montessori, par exemple, il y a des fous. Hein, donc tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Hein, c'est pas aussi simple que ça. C'est aussi une histoire de personnes et d'équipes. Et du coup, en 2017, j'ai eu la chance d'avoir un poste en tant qu'éducatrice Montessori chez les 6-12 ans, à l'Armor Baden. Donc c'est en Bretagne, au bord de la mer. Un site un peu paradisiaque. Et du coup, ça c'était, mine de rien, ça a constitué une bonne préparation pour l'ouverture de l'école. Parce qu'en même temps, j'ai rencontré Cécile, on a commencé à bosser.
Donc tu as quitté l'éducation nationale en 2017, c'est ça?
C'est ça.
Ay, mi noche cariñosa. Ay, tu noche cariñosa también. Ay, mi madre mariposa. Ay, mi muerte mariposa también. Dame, 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 dame. Dame, 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 dame aire. Dame, 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 dame. Dame, 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 dame aire. Mariposa también. Ay, mi madre se reposa. Ay, la muerte se reposa también. Dame, 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 dame. Dame.
dame, 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 dame aire. Dame, 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 dame. Dame, 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 dame aire.
L'école aux graines.
Avec Céline Dolo
et Cécile Évrard.
Sur Dissonance.
J'ai fait une belle rencontre dans la petite cour de l'école aux graines.
Jean Poli.
Deux énormes châtaigniers, témoins d'un ancien parc peut-être, qui auraient été rattrapés par l'extension urbaine et bizarrement enclos dans ce petit espace, géant parmi les mômes. Pendant nos récréations musicales, nous nous rassemblons sous l'ombre bienvenue de leur frondaison. Les feuilles bruissent du plaisir de nous entendre. Ils disent, les enfants, que les troncs, ridés par le grand âge, ont des fesses. Et quand ils s'accrochent aux sillons des branches qui balancent, je fais la leçon que les arbres sont des êtres vivants et que les anciens ont droit à notre respect. J'ai du mal à entraîner les élèves, à les emmener au-delà de leur routine. Pour le dire autrement, j'ai l'embrayage qui patine. Et de me poser des questions, si j'ai perdu la main, si je manque d'énergie, si je n'ai plus le feeling, si je ne suis pas victime de mon statut de remplaçant. Est-ce moi, sont-ce eux ? Parce que les élèves de l'école aux graines ne sont pas si « faciles », entre guillemets. Plusieurs sont les abîmés de l'école. S'ils ont embarqué dans cette aventure particulière en cours d'année, c'est qu'ils ont décroché de quelque part. C'est dingue de constater les dégâts provoqués par les grosses machineries. J'ai connu bien sûr des élèves en échec dans mes petites écoles rurales, mais j'avais l'impression qu'ils, le dit échec, ne laissaient pas trop de traces, parce qu'on y mettait moins d'enjeux, moins de pression, moins d'objectifs immédiats, et parce que la vie continuait. Je pense à ce que Mériot raconte des générations zapping, victimes du capitalisme compulsionnel, et je suis persuadé que la situation empire à mesure que la société se déshumanise. Les petites structures à échelle enfant sont en voie d'extinction, disqualifiées par la modernité efficace. Tout écart est montré du doigt, ausculté, analysé et souvent médicalisé. On ne parle plus d'émancipation par la connaissance, ni d'école libératrice, mais d'obligation de résultat. Et résultat de quoi d'ailleurs ? Le classement des écoles primaires n'est pas en cours d'actualité, mais ça ne devrait pas trop tarder. Il pourrait faire la une des pages locales de nos journaux et alimenter la paranoïa des futurs chefs d'établissement, la névrose des parents, la détresse des gamins.
C'est quand même pas normal, de façon plus globale, qu'on en vienne à rémunérer des écoles parce que ça ne fonctionne pas dans l'éducation publique ou nationale ou dans les grosses structures. Je comprends tout à fait la démarche, mais je trouve qu'il devrait y avoir un travail au sein de l'éducation nationale pour que...
Mais je pense, moi j'ai fait beaucoup d'histoire et de sociologie, et je pense que l'éducation nationale a répondu à un besoin sociétal à l'époque de l'industrialisation qui n'est plus du tout adapté à la société qu'on est en train de créer aujourd'hui.
Marilyn, maman d'élève.
Et ça ne veut pas lâcher quand on voit les travaux de Céline Alvarez qui ont été expérimentaux et forts de plein d'atouts qu'on a fini par supprimer parce que voilà, on l'a extrait de l'éducation nationale alors qu'elle faisait ce qu'on lui demandait finalement et avec du bien-être. Et quand on voit que c'est pas validé ou en tout cas c'est pas continué. Bon, ben voilà, on dit que c'est idéologique, là, et qu'il y a un gros problème. Donc oui, c'est grave, quoi. Nos impôts ne nous servent pas à éduquer nos enfants. Mais voilà, je pense qu'il y a un problème au niveau gouvernemental. Et voilà, il y a bien une raison pourquoi l'éducation nationale va dans cette direction. Et ouais, c'est vraiment dommageable, quoi.
Qu'est-ce que tu vois comme perspective pour les parents dont les gamins sont en souffrance dans les grosses structures privées ou publiques et qui n'ont pas les moyens de venir dans ce genre de structure comme l'école aux graines ? Qu'est-ce qu'ils ont comme choix, alors ?
Ben, c'est simple, tout de suite, quand l'enfant a un souci dans l'éducation nationale, on l'oriente psychologue scolaire, psychologue, un bilan psy, on va se fonder sur l'enfant et son incapacité à s'adapter, alors que finalement, nous, on a vu clairement, on a changé le terreau de notre fille et elle s'est mise à pousser, quoi. Donc c'était... Non, je pense que c'est dramatique. Nous, on a fait l'instruction en famille et ça nous a vraiment grévé au quotidien parce qu'il fallait s'occuper des enfants et leur trouver des activités et du coup moins travailler. Et en termes de bien-être, c'était pas simple parce qu'il fallait gérer le matériel et quand on travaille pas, on gagne pas d'argent ou en tout cas plus difficilement. Et je pense qu'il n'y a pas d'échappatoire pour ces parents en souffrance à part se fixer sur un enfant et lui faire porter toute la charge d'une éducation qui n'est pas... d'une institution qui n'est pas adaptée, c'est terrible. On est en train de faire des... Moi-même, j'ai fait ce chemin-là en me disant, tiens, il y a peut-être de l'autisme, tiens, il y a peut-être de l'hyperactivité, tiens, il y a peut-être une incapacité à s'adapter, parce qu'on m'a porté un jugement comme ça sur ma fille, alors qu'en fait, c'était pas du tout ça. Il fallait juste, comme nous, quand on était petits, avoir plus d'encadrement et avoir plus d'écoute. Quand moi, je parle de tout ce que fait Anouk... Elle dit, c'est ce que vous viviez, vous, quand vous étiez petit. Et aujourd'hui, c'est plus ça, l'école. C'est de la poulet, c'est de la volaille de batterie, quoi. Non, je pense vraiment qu'il n'y a pas d'échappatoire. Tant que l'institution évolue pas, c'est dramatique. Enfin, vraiment, je trouve... Politiquement, c'est vraiment dramatique. En termes de gestion sociétale, c'est une boucherie, ouais.
Donc, l'école aux graines est vue comme une soupape.
Pire que ça. C'est un miracle.
À l'école aux graines, on a des outils qui nous aident à compter et on comprend mieux.
On ne travaille pas toute la journée assis à une table et si on s'organise comme on veut,
je peux faire de la grammaire pendant que les autres font des multiplications.
On n'a pas de devoirs, on fait de la poterie, des arts plastiques, on va souvent dans la forêt pour apprendre avec la nature.
On n'a pas chacun sa trousse. Son ciseau, sa table ou sa chaise. Ici, tout le matériel est collectif.
Et puis, on peut se reposer quand on est fatigué.
Des infos complémentaires sur l'école aux graines sont disponibles sur la page internet de dissonance.ovh ainsi que de Radio Saint-Afrique. Cette émission est à réécouter mercredi 29 septembre à 8h. Et samedi 2 octobre à 16h sur Radio Saint-Afrique. Vous pouvez aussi la télécharger où que vous soyez à votre guise sur le site dissonance.ovh.
Salut
et fraternité.
Ce soir la ville est endormie, les humains ont la tête ailleurs. Sais-tu que pour toi mon ami, je chanterai pendant des heures. J'ouvrirai grand les fenêtres pour contempler les joies du ciel. Et je te verrai apparaître comme un éclair, une étincelle. C'est ici que tout commence, le temps peut bien s'arrêter pour une nouvelle danse. Toi et moi, ma liberté. Derrière les murs et les façades et les discours de circonstance, quelques imprudences évadent, s'affranchissant des convenances. Et les voilà qui nous rejoignent comme dans un grand bal populaire. Sens-tu nos peines qui s'éloignent? Demain sera plus beau qu'hier. C'est ici que tout commence, le temps peut bien s'arrêter pour une nouvelle danse. Toi et moi, ma liberté. Amis, les arbres sont en fleurs et nous revoilà désormais comme des frères, comme des sœurs. Et les soldats sont désarmés. Nous dansons pieds nus sur la terre, nous tanguons sur le toit du monde. Nos âmes qui voguent au grand air sont sur la même longueur d'onde. C'est ici que tout commence, le temps peut bien s'arrêter pour une nouvelle danse. Toi et moi, ma vie.
liberté.
C'est ici que tout commence, le temps peut bien s'arrêter. Pour une nouvelle danse, toi et moi, ma liberté.
C'est ici que tout commence, le temps peut bien s'arrêter. Pour une nouvelle danse, toi et moi, ma liberté.